RCF.
On a failli ne pas avoir la bonne musique, dites-moi. 18h10, le 18-19 en région, animé ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct ce jeudi. RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardenne en DAB+. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique, vous connaissez surtout le magazine régional, le 18-19 en Champagne-Ardenne avec Gérard-Marie Henry que l'on retrouve tous les jeudis. Gérard-Marie, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Le sujet du jour, on le retrouve d'ores et déjà sur votre blog, les fruits et légumes qui défient le changement climatique. C'est assez curieux, on y reviendra dans quelques instants, mais un petit teasing, Gérard-Marie-Henri. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire on sait qu'il va faire de plus en plus chaud, qu'il y aura des problèmes de sécheresse. On a des fruits et des légumes qui souffrent et donc la question, c'est comment faire pour que ces fruits et ces légumes poussent dans 10, 20, 50, 100 ans.
Eh bien, c'est ce que l'on verra avec vous d'ici quelques instants. Gérard-Marie, comme tous les soirs aux alentours de 18h20, un maire nous parle. Ce soir, c'est une maire, Mireille Leguet. Elle est maire de Lanneville en Tournafuit, dans le département des Ardennes. Aux alentours de 18h30, c'est l'information régionale avec le journal. Après quoi, il y a aussi les rendez-vous quotidiens, un peu à l'instar de Gérard-Marie Henry. On retrouvera Jeanne Boudre dans sa rubrique Parole de jeunes. Elle donnera la parole à Lisa pour évoquer le pass culture qui est à destination des jeunes étudiants, des lycéens et des collégiens. Principalement. On aura également une rencontre avec Estelle Mao à propos de la journée du refus de la misère. Et puis enfin, on sera avec Olivier Cuissard, le directeur de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, qui donne rendez-vous pour une journée Tester la fac. Le rendez-vous, c'est pour le 23 octobre, mais c'est dès maintenant qu'on l'inscrit dans l'agenda, parce que pour participer à cette journée, il faut s'inscrire. Voilà pour le sommaire de ce 18-19 en Champagne-Ardenne, 18h12 sur les antennes de RCF. On est avec Gérard-Marie Henry. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Les fruits et légumes qui défient le changement climatique, on le dit, si jamais nos auditeurs sont très connectés, ils peuvent suivre cette chronique en même temps sur votre blog.
Tout à fait. Hein. Donc on fait gérardmariehenry.com et on arrive et on a les différents articles que j'ai mis sur le blog, en particulier ce dernier.
Les fruits et légumes donc capables de défier le changement climatique, il y en a, Gérard-Marie-Henri, c'est
oui,
une bonne nouvelle.
On commence à en avoir. On commence à en avoir, c'est en fait une histoire qui n'a pas démarré aujourd'hui. Je raconte les travaux qui ont déjà une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, et surtout des travaux qui ont été couronnés par un prix Nobel de chimie. En fait, c'est un prix Nobel de chimie. Deux femmes ont obtenu ce prix Nobel il y a 3 ans, en 2020, et c'est une des méthodes par lesquelles on arrive à faire des fruits et des légumes qui résistent. C'est-à-dire, on a la méthode qui s'appelle CRISPR et qui permet de retirer dans ces gènes de certains fruits et de légumes des choses qui lui font souffrir quand il fait chaud ou quand il y a beaucoup de sécheresse.
J'allais dire, cette chronique Gérard-Marie Henry qui généralement est du côté économique, là on allie l'économie, on allie le jardinage et puis on allie la technologie.
La technologie et la protection de l'environnement de demain pour nos successeurs, puisqu'ils auront besoin, dans un monde un peu plus chaud, de continuer à s'alimenter, à déguster des fruits, des légumes, etc.
Alors si vous le voulez bien, on va balayer quelques exemples de fruits et légumes qui peuvent s'adapter à travers le temps et à travers les différents changements climatiques. Bonne nouvelle pour les amateurs de cerises.
Alors des cerises, voilà, là c'est déjà sur le marché, hein, des cerises qui résistent, les cerisiers ont besoin de périodes de refroidissement. Enfin, on fait très simple. Hein. Il ne faut pas que l'hiver soit trop chaud parce qu'autrement, bon, le cerisier ne va pas pouvoir fonctionner normalement. Et là, on a maintenant des cerisiers qui n'ont plus besoin d'avoir autant de refroidissement en hiver. Et donc, des cerises qui vont pousser assez normalement et qui sont de très bonne qualité. Alors, on a en fait deux techniques. J'en ai évoqué une, hein, celle qui consiste à travailler directement sur le gène du fruit ou du légume. Il y a la deuxième technique qui est intéressante mais qui est beaucoup plus longue, c'est de retrouver des fruits et des légumes d'il y a longtemps ou dans des endroits où il fait déjà très chaud, en Turquie par exemple, et puis de les croiser avec des légumes actuels ou des fruits actuels. Vous voyez l'idée ? On fait un hybride en utilisant des carottes qui vont résister plus à la chaleur, des pommes qui vont résister plus à la chaleur. C'est la deuxième piste, mais une piste qui est quand même un peu plus longue en termes de résultats.
L'idée, c'est de ne pas perturber aussi notre façon de consommer, parce que peut-être qu'on devrait tout changer et puis consommer ce que consomment des pays davantage du Sud, etc., où il y a des cultures plus chaudes, forcément.
Tout à fait, mais
On est en train de perdre le micro, on est en train de perdre le casque, on se remet en condition, Gérard Marie. Tout va bien.
Tout va bien, non. Non, on va pas changer nos modes alimentaires, on va les changer à la marge, on va pas demain se mettre à manger beaucoup d'insectes, etc.
On n'est pas encore là.
On n'en est pas encore là, on les fait manger par les poissons, mais on les mange pas directement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir des espèces de fruits et de légumes qui correspondent à ceux qu'on mange maintenant, des melons, des avocats, enfin, des choux-fleurs dans la liste un petit peu exotique que j'ai faite, il y a ces fruits et ses légumes, mais il faut qu'ils soient pas trop différents de ce qu'on a l'habitude de manger. Et il faut qu'ils résistent à un environnement qui est plus sévère, puisqu'il va y avoir, par exemple, dans certains cas, comme il y a moins d'eau, ben, il y aura plus de sel dans les terrains qui sont un peu avec une salinité déjà importante, ben, on va avoir plus de sel dans le sol, ce qui, pour certaines espèces de légumes ou de fruits, fait souffrir. Et donc, il faut arriver à trouver comment ces fruits, ces légumes peuvent s'adapter dans des conditions qui sont différentes.
Alors, pour revenir sur l'aspect économique, la recherche a un coût, le développement de technologie
oui,
aussi.
Tout à fait, oui.
Ça coûte combien?
Ben, ça coûte cher. Ça coûte du temps, d'abord. Donc, on a des équipes qui disent, ben, on travaille, on sait qu'on sera récompensé dans 10-15 ans. Donc, pendant 10-15 ans, ils travaillent gratuitement. Il faut qu'ils aient des subventions, etc. Mais c'est pas royal. Le jour où ils vont arriver à faire ça, ils pourront breveter, ils pourront vendre. Mais il y a toute une période antérieure qui n'est pas rémunératrice. Donc, c'est un investissement sur l'avenir. C'est ça qui est réconfortant dans l'histoire actuelle où on voit des choses horribles, des gens qui décapitent des bébés, des choses comme ça. On a d'un autre côté donc des gens qui travaillent pour que l'espèce humaine, demain, puisse continuer à vivre. Et c'est assez sympathique.
Alors évidemment, Gérard-Marie Henry, on fait des recherches sur les fruits, sur les légumes, mais aussi sur les technologies, dans le sens où on essaye aussi de revoir les façons de cultiver les choses.
Ah, tout à fait. Oui, on va. Alors évidemment, on a déjà des travaux dans cette direction, même des résultats assez impressionnants. Au lieu de faire de l'irrigation en balançant de la flotte, on fait du goutte à goutte, etc. On a toute une série de techniques, mais là, ce sont des techniques qui ne modifient pas, enfin qui n'ont pas besoin d'avoir des légumes ou des fruits modifiés. Et là, quand on croise les deux, technique nouvelle de culture avec nouveaux cultivars, on va dire comme ça, bon, on arrive à des choses qui sont assez sympathiques.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont, j'allais dire, un temps d'avance dans cette recherche?
Ben, on a à chaque fois les Européens et les États-Unis. Hein, c'est les deux pays, avec des pays un peu plus exotiques à l'heure actuelle, comme Israël, par exemple, qui est un champion de l'agriculture avec peu d'eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, et donc qui, depuis des dizaines d'années, fait des travaux là-dessus. Mais c'est surtout les Européens et les Américains, d'où le prix Nobel dont on a parlé tout à l'heure. Emmanuelle Charpentier est française, et puis sa copine Jennifer Doudna est américaine.
Et donc elle continue les recherches dans ce sens?
Tout à fait, elle continue à faire en sorte que cette technique CRISP qui permet d'arriver sur le génome d'un organisme, alors là on a pris des fruits et légumes, mais ça pourrait être un organisme vivant, je vais faire un article sur mon blog sur des moustiques qui ne vont plus balancer la malaria, parce qu'on a modifié génétiquement ces moustiques et maintenant ils se reproduisent pour faire que tous les autres leur ressemblent. Donc on a une technique qui est assez intéressante mais qui continue à progresser.
Effectivement, alors c'est tout un sujet, parce que pour vous raconter un petit peu ma vie, Gérard-Marie, vous le savez, j'ai une nièce qui est aux États-Unis. Elle est accueillie dans une famille, la mère de la famille est ingénieure dans la recherche des fermes de ville. Donc c'est en Californie justement. Et alors, si j'ai bien tout compris, ils essayent de construire dans des sortes de châteaux d'eau mais adaptés en ferme, des fermes de ville pour faire pousser les fruits et légumes que l'on consomme aujourd'hui en ville. Et apparemment, c'est un métier qui rapporte bien. Elle est souvent en voyage entre Los Angeles, Las Vegas, etc. pour aller faire des conférences, des travaux de recherche, etc. Et il y a une très très belle maison et apparemment c'est un métier qui rapporte, ingénieur dans ce genre de domaine.
Oui, si on est déjà dans le produit qui est déjà achevé, qui est déjà réalisé, évidemment, on n'est pas dans la création, mais à partir de là, c'est jackpot. Hein.
Bon, ben pourquoi pas, on essaiera peut-être de vous mettre en relation, peut-être qu'il y aura de nouveaux sujets économiques à faire sur RCF. En tout cas, Gérard-Marie Henry, merci de nous avoir présenté quelques-uns de ces fruits et légumes qui donc défient le changement climatique. On a vraiment toutes les informations complètes et tous les fruits et légumes, notamment on a parlé nous de cerises, de choux-fleurs, d'avocats, mais on aurait pu parler de melons, de mûres, on a parlé de carottes également ce soir, on aurait pu parler davantage des pommes. Tout ça, c'est sur votre blog gérardmariehenry.com.
.com.
Merci Gérard-Marie, à très bientôt.
Merci Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
On est pile dans le timing pour l'instant. On va essayer d'y rester. C'est toujours bien quand c'est réglé comme ça, comme du papier à musique. À 18h20, un maire qui nous parle, notre maire ce jeudi soir, et madame Mireille Leguet, maire de Lanneville en Tournafuis, dans le département des Ardennes, entretien au micro de Jean-Pierre Benoît.
Mireille Leguet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors on est content d'avoir ce village des Ardennes, Lanneville en Tournafuis. C'est vrai que quand on dit le nom du village, hein, on est tout de suite un petit peu impressionné. Combien y a-t-il d'habitants à Lanneville en Tournafuis?
Alors je n'ai pas compté ce matin, mais je pense qu'on est à peu près 550 habitants, dont une soixantaine d'enfants qui vont donc dans le primaire, 29 au collège. Et de l'autre côté de la pyramide, les plus âgés, on est 129 à avoir plus de 60 ans. Donc c'est une pyramide à la fois très jeune et un peu plus âgée. Voilà.
Alors cette commune, donc, elle est pas très loin de Rethel finalement.
Alors on est dans le sud des Ardennes avec le beau soleil. On est la dernière commune avant le département de la Marne, hein, avant Pont-Favergé. Et effectivement, on est à 20 km de Rethel, 25 de Vouziers et 25 de Reims. On est à peu près au milieu.
Ah, vous êtes à égale distance des trois. Vous êtes maire depuis quelques années, Mireille Leguet, de Lanneville?
Alors, c'est mon deuxième mandat de maire que je fais. Avant, j'ai été conseillère municipale et après adjoint. Donc, j'ai fait les trois étapes.
Alors, est-ce que, on pose souvent la question, est-ce que c'était, comme on dit aujourd'hui, un peu dans votre ADN? Vous étiez attiré vers le monde associatif ou vous étiez déjà dans le circuit, dans le milieu, en quelque sorte?
Alors, moi, déjà, je ne viens pas des Ardennes, je suis normande. Et quand je suis arrivée en 90 ici, j'ai été au bureau de famille rurale, dans une association donc pour principalement les enfants. Et c'est vrai que c'est là où j'ai appris le bénévolat et après donc on m'a demandé pour aller au conseil municipal. Mais sinon dans ma famille en Normandie, j'ai toujours connu des élus. Mon père, mon grand-père et j'ai même eu quelqu'un qui a été ancêtre, qui était maire de Rouen. Donc effectivement, dans ma famille maternelle, il y a toujours eu des élus.
Alors, la commune de Lanneville en Tournafuis, comment peut-on la caractériser aujourd'hui? Vous l'avez déjà fait, hein, plus ou moins, mais au niveau des activités, encore des agriculteurs tout de même?
Alors, c'est une commune encore très agricole, hein, puisqu'on a encore 2500 hectares de terres labourables, une des communes les plus agricoles, enfin, au niveau superficie. On a des producteurs qui se diversifient beaucoup, même avec les productions qui sont classiques comme la betterave ou la luzerne, mais on a aussi de la vente directe avec du miel, des fraises et lapins, je vais sûrement en oublier, des volailles, de la confiture. Et donc on a des agriculteurs qui vraiment sont très en recherche.
Mmh. Eh bien vous nous mettez en appétit d'y voir aujourd'hui. Alors c'est vrai que le maire est souvent sollicité, hein. Beaucoup s'interrogent, il y a même des gens qui refusent maintenant. On a du mal parfois à trouver des maires parce que c'est vraiment beaucoup plus de travail qu'on ne pense.
Mais disons qu'effectivement, c'est au moins 100 professions. C'est à la fois savoir bricoler un peu de peinture, diriger des salariés, répondre à l'urbanisme. C'est tellement
varié.
Multiple, que varié, et avec effectivement beaucoup de responsabilités. Mais on est quand même bien entouré. On a la sous-préfecture, on a la DDT, on a l'association des maires, on a toujours des référents et puis on a aussi nos collègues maires avec qui on peut discuter et dire s'il y a eu le même cas, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont fait. Donc je pense que...
Alors justement, Mireille Leguet, il y a depuis quelques années des communautés de communes. Est-ce qu'on peut dire quand même que le maire, il reste quand même d'une certaine façon le patron ou la patronne dans sa commune? On le connaît, tout le monde le connaît, c'est lui qu'on va voir.
Oui, moi j'ai un peu une vue différente, c'est qu'au niveau de la communauté de communes du Pays Rethelois, je fais partie de beaucoup de commissions et j'essaye d'y aller. Et c'est vrai que c'est là où on connaît le plus le fonctionnement interne de la communauté de communes, c'est en allant quand il y a des groupes de 15, c'est pas quand il y a des grands conseils communautaires. Et je pense que cette façon à moi, parce que je le peux, parce que j'ai le temps, d'appréhender le fonctionnement de la communauté de communes me fait l'accepter plus facilement. Et puis je dirais qu'on n'est pas patron, on est facilitateur dans sa commune. Mon patron, ça fait un côté un peu autoritaire.
Ancien, peut-être aussi.
Il me surprend.
Enfin, je veux dire, c'est bien sûr un mot qui donne l'idée que le maire garde quand même un certain nombre de responsabilités, quoi, à l'intérieur de la commune, quand même.
Ah oui. Mon petit-fils dit que je suis le chef du village, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais on a des responsabilités, on ne doit pas les fuir, on doit les prendre avec beaucoup de sérieux, puis en même temps se dire que si on se sent un peu juste, on peut toujours se référer effectivement à d'autres organismes pour être appuyé par la loi, parce que de toute manière, on est là pour faire appliquer la loi. Et donc, on est quand même couvert de ce côté-là. Mais c'est vrai que nos administrés, on les voit tous les jours. La plupart, c'est quand même des amis. Et c'est pas facile de faire la part des choses, c'est sûr.
Alors, quel type de demandes, justement, de requêtes, de questions qui sont formulées par vos administrés aujourd'hui ? Elles doivent être variées, d'ailleurs, ces demandes.
Ah, elles sont très, 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 très variées. Elles sont parfois inattendues, d'ailleurs.
Il faut vous adapter, donc.
Il faut nous adapter, il faut les écouter avec beaucoup de sérieux, quelle que soit la question ou la remarque, parce que si elle est faite, c'est que la personne, elle en éprouve le besoin et pour elle, c'est sérieux. Et puis en même temps, pas prendre forcément au pied de la lettre, parce que ça peut être un peu dangereux. Ce qui revient chez nous, c'est la sécurité, c'est parce qu'on a quand même un petit peu de vol, et c'est vrai que, outre la perte financière parfois, c'est aussi le sentiment d'insécurité quand on pénètre dans votre maison par un voleur, c'est toujours assez désagréable. La sécurité routière aussi, nous on est un village où on a beaucoup de trafic de camions, et même s'ils respectent dans l'ensemble les vitesses, ben, ça paraît toujours un petit peu...
Un peu trop rapide quand même.
Oui, un petit peu trop rapide quand même. Et puis après, c'est des problèmes de voisinage. Et on a pas mal aussi de demandes de logement. On a eu deux logements à louer, là, qui ont été tout de suite pris. Et c'est le cas même pour les privés. Et on a des demandes.
On aime bien être à la campagne aujourd'hui, dans un beau village. Et puis c'est pas très très loin. Bon, on arrive quand même à aller à Reims. Alors, le temps passe très vite avec vous, Mireille Le Guay. Il nous reste une minute et demie. Alors, les projets en cours. Vous avez quelques projets quand même sur le grill en ce moment ?
Oui, on a des projets sur le grill. On a un projet qui va commencer, donc c'est un ancien corps de ferme qu'on a acheté en 2020, qui est en plein milieu du village. Et donc le projet, c'est d'en faire un lieu ludique et verdoyant pour la commune. Et donc le corps de ferme va être démoli pour les trois quarts. Et puis donc il y aura un espace de parking, de verdure, d'air de jeu et surtout un préau.
Oh, on viendra pour l'inauguration, Mireille Le Guay. On viendra. C'est prévu pour quand ?
Et le deuxième projet, c'est un verger, parce qu'on avait une parcelle qui était avec des épicéas qui ont subi les assauts des scolytes, et donc on a dû les raser. Et là, on veut faire un verger cet automne avec à peu près 50 arbres, dont une bonne partie en arbres fruitiers, et pour faire un verger participatif. Donc voilà les deux projets là.
Mais c'est deux beaux projets en tout cas. On arrive presque au terme, Mireille Le Guay, de notre émission. Ça sera l'occasion de revenir dans ce cadre ou dans un autre cadre pour RCF. Est-ce que vous êtes, et c'est la dernière question qu'on pose souvent, quand même une mère heureuse, une mère M-A-I-R-E. Vous êtes contente quand même d'avoir cette mission ?
Alors, moi, heureux me paraît un petit peu exagéré, mais j'aime ce que je fais. Je l'ai choisi et franchement, j'apprécie. Et puis j'aime mon village d'adoption, puisque c'est pas moi, j'habitais en Normandie. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que nous essayons avec le conseil municipal de gérer les deniers qui nous ont été confiés, et que nous confierons le mieux possible après. Parce que nous, on n'est que de passage, on nous a confié quelque chose, et on essaye de le rendre le mieux possible. Et puis on a une petite devise à la Neuville, c'est ambitieux et lucide.
Je pense que les c'est deux une mots belle vont devise.
Très bien.
Merci Madame Mireille Le Guay d'avoir été au téléphone avec Jean-Pierre Benoît, une mère qui nous parle tous les jours, un ou une mère qui nous adresse la parole dans le magazine régional. Vous pouvez également retrouver tous leurs témoignages depuis le début de l'année en rubrique programme sur le site rcf.fr en sélectionnant votre radio RCF France Ardennes. Le rendez-vous, c'est à midi du lundi au vendredi avec Jean-Pierre Benoît que l'on retrouvera à l'intérieur de ce magazine régional. Ça sera un petit peu plus tard Bernard en deuxième partie d'émission pour terminer le magazine régional ensemble. Ce soir, il sera avec Olivier Cuissard, le directeur de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, qui présentera une journée Tester la fac. Le rendez-vous, c'est le lundi 23 octobre. Voilà, si vous êtes parents, grands-parents d'un élève qui est en lycée, plus particulièrement en terminale, et qui hésite pour ses études supérieures, il y a peut-être une formation qui lui correspond à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, mais il hésite encore. Eh bien voilà, c'est la possibilité de venir tester la fac, voir comment ça se passe concrètement dans les cours, voir si on se sent à l'aise sur le campus. Vous en saurez plus tout à l'heure, mais pour l'heure, il est 18h30. C'est le magazine régional. Fabrice, envoie les jingles. Avec les titres de ce jeudi 12 octobre 2023, au diocèse de Chalon s'est tenue l'assemblée diocésaine autour de l'accueil, avec plusieurs témoignages, notamment celui du père Vincent Dilizia, membre de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Depuis fin septembre, les rencontres de basket à Charleville-Mézières se passent dans la Guinguette Arena, un nouveau naming essentiel pour le club qui ne fait pas l'unanimité auprès du public.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Les collégiens de la maîtrise de la cathédrale de Reims seront à l'honneur sur TF1 ce soir. Ils se produiront en direct dans l'émission Tous avec les Bleus, présentée par Nico Saliagas. À l'Épine, le père Vincent Dilizia, membre de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes, est intervenu sur la dimension pastorale et missionnaire de l'accueil, Christopher Fausten.
Le 7 octobre dernier s'est tenue l'assemblée du diocèse de Chalon à l'Épine sur le thème de l'accueil. Plusieurs témoignages se sont succédés durant la matinée avant l'intervention sur la dimension pastorale et missionnaire de l'accueil par le père Vincent Dilizia, membre de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes.
Écoutez, moi j'ai été très touché par ce qu'ont dit plusieurs personnes chargées de l'accueil, funérailles, catéchèses, catéchuménat, l'accueil à l'évêché également. Voilà, toutes ces réalités qui font que dans l'Église, il y a vraiment une communion pour que chacun puisse trouver sa façon d'accueillir et qu'il soit une façon missionnaire, mais chacun a sa façon. Et comme j'ai dit, voilà, l'Église, elle est universelle, il y a de la place pour tout le monde, mais elle n'est pas unicervelle. L'Église, elle est dans le monde, nous accueillons des personnes, nous allons les voir, et au nom de Jésus. Et on a une bonne nouvelle à transmettre, une bonne nouvelle à découvrir, et qu'au fond, nous ne sommes pas l'Église et le monde comme deux équipes de foot qui jouent l'une contre l'autre, mais nous sommes l'Église et le monde ensemble. C'est la même équipe.
Une intervention très bien reçue par l'ensemble des diocésains présents. Pour Dom Paul Gantois, prêtre à l'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud, ces témoignages lui ont permis de voir les choses autrement.
Ça m'a posé question sur la manière, comme pasteur, comment j'accueillais et puis comment aider aussi les fidèles de la paroisse à pouvoir accueillir les personnes qui viennent, que ce soit au presbytère, que ce soit à la messe aussi. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'accueillir les personnes qui sont à la messe et de savoir voir les visages que l'on n'a peut-être pas l'habitude de voir et d'aller vers ces personnes-là en s'intéressant à leur vie et en les rejoignant dans ce qu'elles vivent pour leur apporter le Christ. J'ai beaucoup aimé l'intervention du Père Vincent qui nous partageait aussi sur ce qu'il avait pu vivre. Moi qui suis un bébé prêtre, eh bien j'aurais à mettre sous tout ça en œuvre avec la grâce de Dieu.
Après cette matinée enrichissante, l'Assemblée diocésaine s'est poursuivie avec les nouvelles règles administratives.
Un reportage de Christopher Fausten depuis l'Épine, c'est près de Chalon en Champagne. Reportage à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, notamment Facebook et Twitter. Ce vendredi 13 octobre devrait être marqué par des grèves. Les travailleurs de nombreux secteurs sont appelés à se mettre en grève ce vendredi. L'intersyndicale se mobilise contre l'austérité pour l'augmentation des salaires, des pensions et l'égalité femmes-hommes. Évidemment, des rassemblements sont organisés dans les département de la Marne et des Ardennes, en Haute-Marne et dans l'Aube également. Donc, vous pouvez vous rapprocher de sites internet pour voir les mobilisations prévues sur notre territoire. À noter dans l'actualité nationale et internationale que Gérald Darmanin ordonne l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes en France. Le président de la République française, Emmanuel Macron, prendra la parole ce soir à 20h sur ce sujet. Depuis fin septembre, c'est un petit changement qui fait grand bruit à Charleville-Mézières. La salle de basket, dite l'Arena, qui a appartient à Ardenne Métropole, mais dont la gestion a été confiée au club de basket des Flammes Carolo, a trouvé un nouveau sponsor pour son naming. Il s'agit de la boîte de nuit carolo-massérienne La Guinguette. La salle s'appelle donc désormais La Guinguette Arena, la suite logique pour un partenaire fidèle, selon Romuald Diarno, le patron des Flammes.
En l'occurrence, c'est pas un nouveau partenaire, c'est un nouveau partenariat, mais c'est un partenaire qui on travaille déjà, fait que renforcer les liens. Après, c'est une fierté, je crois que c'est une fierté pour le club, c'est une fierté pour l'entrepreneur qui prend le nom de la salle, puis c'est une fierté aussi pour les Ardennes, parce qu'on a réussi à trouver une entreprise ardennaise qui a fierté aussi à s'engager, et ça, je crois que c'est important.
Partenaire depuis 2017, Johan Klein, propriétaire du club Lange La Guinguette, voulait continuer de mettre en avant son établissement tout en soutenant les Flammes Carolo.
Et cette année, on a décidé de mettre en avant La Guinguette qu'on a acquérie au mois d'avril. Et en fait, c'est un partenariat, comme disait Romuald, donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire évoluer aussi la salle, l'aréna, dans d'autres circonstances que le basket. En faisant des soirées, des concerts, voilà, on a plein d'idées en projet, après à nous de les valider. Là, on a décidé de mettre en avant La Guinguette et oui, on s'est engagé sur 3 ans. Quand il m'a apporté le projet, il voulait vraiment une entreprise locale et non pas un groupe national. Après, moi, j'étais pas du tout parti pour ça. Et c'est vrai que maintenant, être associé aux Flammes Carolo, une équipe quand même qui est dans le haut du classement, pour nous, c'est quand même une fierté d'être représenté par eux et les accompagner tout au long de la saison.
Un contrat signé pour 3 ans dont le montant n'a pas été dévoilé officiellement. Cependant, il semblerait qu'il porte sur 30 000 euros annuels. Une fierté aussi pour Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole, de voir que la gestion confiée aux Flammes porte ses fruits.
Oui, ce qu'on souhaitait, nous, à Ardennes Métropole, c'était qu'il y ait toujours un lien très fort entre le sport de haut niveau, que représentent les Flammes Carolo, et puis le tissu économique local, le territoire, nos concitoyens ardennais. Et donc, je crois qu'au travers de ce naming, ce lien se perpétue. On a là une entreprise ardennaise qui appartient à un groupe très actif sur notre territoire et qui donc va apporter des moyens à l'équipe des Flammes Carolo.
Pour le moment, le nom divise au vu des premières réactions postées sur les réseaux sociaux, mais peut-être que les succès comme celui d'hier soir feront oublier cette appellation auprès des plus sceptiques pour leur entrée en Eurocup Women cette saison. Les Flammes Carolo ont balayé 108-42 la formation grecque d'Eleftheria Moschatou. C'est un 4-4 en match officiel pour les Ardennaises cette saison. C'est un début de saison en fanfare. Les propos que vous avez entendus, hein, les trois sons avec Johan Klein, avec Boris Ravignon et avec Romuald Diarno ont été recueilli par notre correspondant au sport, notamment Maxime Bettmal. C'est l'information que l'on peut vous donner. Il n'y aura pas de Sportiplex exceptionnellement cette semaine. Les jeunes prennent un petit peu de repos. C'est les vacances avant l'heure. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Voilà, je vous raconte un petit peu ce qu'il se passe en coulisses. Évidemment, savoir qu'il n'y aura pas de Sportiplex cette semaine, c'est une information pour vous, les auditeurs. Mais j'ai vu Fabrice aussi prendre l'information, qui s'est dit « Tiens, je vais pouvoir avancer sur ma programmation du week-end, je vais exactement savoir ce qu'il se passe, quels sont les programmes que j'annonce, je ne dis pas une bêtise à l'antenne. » Et c'est aussi pour vous, les auditeurs, que l'on fait ce métier, et on se passe les messages comme ça, en direct. Bienvenue dans les coulisses de la radio sur RCF, dans ce magazine régional. Les jeunes sont aidés par le gouvernement, par le Pass Culture. C'est l'objet de la rencontre de Parole de Jeunes, qui est menée par Jeanne Boudre.
Bonjour et bienvenue dans Parole des Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Lisa pour discuter du Pass Culture. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Qu'est-ce que le Pass Culture ?
De ce que je sais, le Pass Culture, c'est une application pour les jeunes, pour notamment faire des activités assez culturelles, comme aller au cinéma, faire des concerts, ou même acheter des livres ou des matériaux pour le dessin. Et moi, je l'utilise assez souvent et assez régulièrement.
Comment est-ce qu'on l'utilise ?
Je crois qu'il faut des codes EduConnect. On les prend et on se connecte avec l'application qu'on installe. Par la suite, on va donc avoir un compte avec des codes qu'il faut retenir et qu'on va créer. Et ensuite, on reçoit, une fois que la confirmation est faite, une taux de somme selon l'âge qu'on a à dépenser.
Quelles sont les sommes selon l'âge qu'on a ?
Je sais que quand on a 18 ans, c'est environ 300 euros. Et les autres années, ça augmente au fur et à mesure. Ça varie entre 30 et 50 euros, je crois.
À quoi te sert le Pass Culture ?
Moi, je m'en sers majoritairement pour acheter des matériaux de dessin, vu que ça coûte assez cher. Du coup, avoir de l'argent pour les acheter à peu près gratuitement, c'est super utile. Et des fois aussi pour aller voir des concerts avec des copines.
Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir créé ce Pass Culture ?
Je trouve ça très utile pour les jeunes afin de pouvoir plus être dans la culture de manière un peu plus gratuite parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de pouvoir se payer ce genre d'activité ou ce genre de matériaux. Et ça permet d'inclure à peu près tout le monde de manière assez égale, donc je trouve que c'est une très bonne initiative.
Quels sont les reproches que tu pourrais faire au Pass Culture ?
J'ai pas beaucoup de reproches à faire, mais s'il y a un truc que peut-être je trouve ça assez dérangeant, c'est les sommes, même si je sais qu'on peut pas mettre énormément d'argent, c'est quand même des sommes qui partent assez vite selon ce qu'on veut acheter ou selon ce qu'on veut faire, donc ça devient très vite une application inutile car on dépense ça assez vite sur le court terme.
Comment est-ce que tu comptes utiliser le Pass Culture lorsque tu auras 18 ans et donc que tu bénéficieras des 300 euros ?
Alors là, j'ai pas forcément réfléchi, je pense que je vais faire comme j'ai fait les autres années, acheter des matériaux, mais cette fois un peu plus cher pour le dessin, puisque je pourrais me le permettre, et continuer à aller à des concerts, des cinémas, des expositions.
Merci beaucoup Lisa de nous en avoir parlé. C'est tout pour cette interview, et à bientôt dans Paroles de Jeunes.
C'est tout pour aujourd'hui parce que Parole de Jeunes reviendra la semaine prochaine, le jeudi soir, dans le magazine régional. Évidemment, ce sera avec joie que l'on vous accompagnera. Mais pour l'heure, à 18h40, à l'occasion de la prochaine journée mondiale du refus de la misère, le collectif du 17 octobre, regroupant plus de 10 associations et institutions cézannaises, on est dans le sud-ouest marnais évidemment, se mobilisera mardi prochain au prétoire de Cézanne pour sensibiliser la population aux problématiques de grande pauvreté. On en parle avec Estelle Mao, alliée sur le sud-ouest marnais pour l'association ATD Carmonde, Agir tous pour la dignité. C'est au micro de Christian Lancio, un correspondant fidèle. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Estelle.
Bonjour Christian.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler du programme du 17 octobre de cette année, faites-nous un petit peu rappel de l'historique de ce collectif ces années.
Ce collectif du 17 octobre, il existe depuis 2012. Notre première action lors de ce collectif, ça avait été de présenter une exposition qui s'appelait « La forêt des idées reçues ». Et on avait organisé ça dans le grand hall de la médiathèque. Et donc, c'était la première fois que les associations, toutes les associations de solidarité, mais aussi la cité scolaire, la paroisse, les organisations, d'autres organisations de la ville se regroupaient sous ce travail, cette réflexion autour de la journée mondiale du refus de la misère. Il y avait eu quelques choses ponctuelles qui avaient été faites auparavant, mais qui n'étaient pas aussi formalisées. Et depuis, donc, tous les ans, on fait des animations. Et on organise une rencontre pour la Journée mondiale du refus de la misère, qui est intergénérationnelle parce que souvent les élèves participent, et qui permet de donner la parole aux personnes qui vivent dans la pauvreté ou effectivement qui rencontrent des difficultés. L'objectif, effectivement, c'est d'associer tout le monde à ce combat, dire que la misère c'est une violence, c'est une discrimination qui fait partie maintenant des discriminations inscrites, hein, discrimination pour précarité sociale, et donc il faut toujours être vigilant, et dans nos territoires ruraux c'est d'autant plus important d'avoir ce collectif à Cézanne, c'est que les gens se rencontrent et du coup puissent échanger sur le territoire, faire des liens et du coup ça permet des belles synergies et à chaque thème différent, on s'élargit vers d'autres institutions de notre territoire, ce qui permet effectivement encore d'élargir les liens.
On peut dire que ce collectif est exemplaire puisqu'il regroupe, vous ne les avez pas cités, mais des associations, on pourrait dire, confessionnelles, des associations complètement laïques, et puis également la cité scolaire, la ville, etc.
Oui, je vous les listerai à la fin quand on parlera de vraiment ce qui va se passer cette année. Mais oui, c'est une richesse et c'est la force de ce que voulait le père Joseph Wrzinski quand il a déclaré cette journée au Trocadéro. C'est effectivement que du coup, on se rassemble tous et que c'est pas la bannière duquel on est qui compte. C'est qu'on puisse effectivement permettre à toutes ces personnes d'accéder à ses droits fondamentaux et que ça, c'est un gage de dignité et c'est bon pour la personne humaine.
Le thème d'année 2023.
Alors, le thème d'année, en fait, c'est emploi décent, accélérateur de stabilité, de sécurité et de dignité. Depuis de nombreuses années, l'emploi, c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler. Il y a en fait l'exclusion et la pauvreté, quand même une des explications, c'est aussi le manque d'emploi. Il y a aussi effectivement, même quand les personnes effectivement ont un emploi, il y a vraiment un mal-emploi aussi. Et donc, beaucoup effectivement d'actifs sont très fragilités, selon l'Observatoire des inégalités. Quand on voit qu'il y a 4 millions de travailleurs précaires, 2 millions de personnes qui souhaiteraient travailler, mais qui, découragées, ne recherchent plus activement du travail, et sortent progressivement des statistiques du chômage, plus 2 millions de chômeurs, ça fait quand même déjà beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des circuits très compliqués. Et effectivement, y a plein de choses qui existent, des circuits d'insertion, que ce soit dans notre territoire ou dans, plus globalement, des dispositifs qui peuvent exister. Mais ATD Quart Monde aussi, avec d'autres personnes, milite aussi avec d'autres pistes qui permettent effectivement de garantir un emploi décent. Et en tout cas, l'objectif qu'on a par rapport à cette journée dans le collectif, c'est de redire et refaire que les personnes en situation de pauvreté puissent dire quel est le travail décent pour eux. Aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut être un frein ou une difficulté aujourd'hui pour eux pour retrouver un emploi ou pour être dans l'emploi.
Il y a quelques années, c'était l'occasion de l'anniversaire des droits de l'homme, on peut dire que le travail est un droit fondamental.
C'est un droit fondamental et effectivement, il y a un certain nombre d'institutions qui essayent effectivement de le permettre. Mais du coup, il faut aussi écouter les personnes qui en sont privées pour voir effectivement comment elles peuvent être intégrées à tout ça.
Alors, qu'est-ce qui va se passer à Cézanne le 17 octobre ?
Il y a toujours une phase de préparation en amont avant la journée du 17 octobre parce qu'on ne veut pas parler à la place. Donc les personnes réfléchissent déjà depuis la rentrée à ce thème de l'emploi décent et ils vont faire un retour de témoignage. Donc voilà, parmi les membres du collectif, du coup, il y aura des témoignages qui émaneront effectivement des différents groupes. Donc le CIAS, cette année, participe avec nous dans le collectif PISTE, la mission locale et l'IME. Nous proposerons effectivement des retours de témoignages. Après, dans le collectif, il y a le Secours populaire français, il y a le CCF des Terres solidaires, il y a le groupe paroissial Diaconia, il y a la cité scolaire, il y a la médiathèque, il y a la Croix-Rouge. Et il y a aussi un soutien du Pôle emploi et de la CSD. Et donc, toutes ces personnes-là contribuent à l'organisation effectivement de la soirée du 17 octobre où il y aura une présentation théâtrale de la part des élèves, des témoignages de notre territoire de Cézanne et aussi, on va voir sous quelle forme, mais un témoignage de l'entreprise à but d'emploi qui est une expérimentation territoire zéro chômeur de Joinville, qui vient de démarrer, si je ne me trompe pas, l'année passée. Et donc, on avait envie de mettre en valeur comment on peut créer de l'emploi pour des gens qui en sont très très loin et que ça donne des conditions dignes et que ça rende les gens heureux.
Bien, merci Estelle. Bravo. Donc, rendez-vous maintenant, donc c'est au prétoire, le mardi 17 octobre à...
Rendez-vous à 18h au prétoire, temps de jusqu'à 20h, et puis ça se terminera par un moment convivial.
Eh bien, venez tous, donc le 17 octobre, au prétoire, donc participer à cette grande soirée, donc de la journée mondiale, maintenant, on peut dire, du refus de la misère. Merci Estelle d'avoir accepté notre invitation, puis à bientôt, au revoir.
Merci Christian.
Merci Estelle Mao, merci Christian Lanciot, tout est dit, ou presque, on rappelle les informations pratico-pratiques. Déjà une nouvelle mobilisation d'ampleur qu'on a envie de féliciter avec l'ensemble des associations cézannaises. On le rappelle donc, le rendez-vous c'est ce mardi prochain dès 18h au prétoire de Cézanne. L'accès est libre, bien évidemment.
Le 18-19 sur RCF.
On est toujours ensemble sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Encore une dizaine de minutes à passer tous ensemble avant de pouvoir dîner, pourquoi pas. Notre invité pour terminer ce magazine régional ce soir vient de l'étage du dessous. Il s'agit d'Olivier Cuissard, directeur de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Entretien au micro de Jean-Pierre Benoît pour présenter une journée tout à fait exceptionnelle.
Olivier Cuissard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que dans quelques jours, je crois que ce sera le 23 octobre prochain, une grande opération est conduite et à l'ICP, vous allez accueillir des jeunes.
C'est le lundi 23, effectivement. C'est une manifestation qui s'appelle Tester la fac. Comme son nom l'indique, les jeunes gens des lycées sont invités à venir tester les cours, découvrir les filières, toute une journée au sein de l'établissement. Donc c'est pour eux un premier pas dans l'enseignement supérieur, une première approche de l'enseignement supérieur pour les aider justement, c'est l'objectif, à affiner leur choix pour janvier, puisqu'en janvier Parcoursup s'ouvre.
Il faut rappeler que le 23 octobre, nous sommes en période de vacances scolaires pour les élèves de terminale et les lycéens,
oui.
Alors que l'Institut catholique de Paris campus de Reims, lui, poursuit ses cours.
J'ai voulu, c'est un peu exprès Jean-Pierre, hein, c'est pas totalement le fruit de hasard, j'ai voulu que les jeunes étudiants de terminale puissent venir assez librement assister à un cours sans qu'ils soient pénalisés dans leur établissement de terminale. Quoi.
Donc vous allez permettre à ces jeunes de terminale de découvrir toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui l'ICP. Il faut dire qu'elles sont nombreuses avec les différentes licences qui sont ouvertes depuis déjà maintenant 2 ou 3 ans.
On étoffe effectivement progressivement notre offre de formation. Juste pour rappeler peut-être, on a ouvert il y a 3 ans de cela. On a fait seulement la 3e rentrée, Jean-Pierre, vous vous rendez compte? 3e rentrée, on dépasse.
On a l'impression que ça fait déjà pas mal de temps.
Une éternité qu'on se connaît et qu'on est mariés, Jean-Pierre. En réalité, 3 ans, seulement 3 ans, on a ouvert sciences économiques et sciences politiques. On a ouvert information communication et on a ouvert sciences de l'éducation il y a 3 ans. Donc cette année, les plus vieux d'entre eux arrivent en 3e année. Et puis, il y a 2 ans, on a ouvert 2 autres licences, une licence en droit et une licence en histoire-géographie. Et cette année même, on a ouvert nos premiers masters.
Les premiers masters sont ouverts et vous avez, on va en reparler, l'occasion d'en ouvrir d'autres pour la rentrée prochaine. Donc concrètement, les parents qui nous écoutent, les grands-parents qui nous écoutent, qui ont des petits-enfants ou des enfants, et puis les jeunes eux-mêmes qui se disent « c'est vrai que Parcoursup, il va falloir que je m'en inquiète et je m'en préoccupe », allons voir sur le terrain. Allons à l'ICP Campus de Reims, 6 rue du Lieutenant Herdouin à Reims. Et
le
c'est
23.
À partir de quelle heure?
En réalité, les premiers cours commencent le matin à 9h. Donc ça peut être toute la journée du lundi 23 à partir de 9h du matin. Dans les 5 licences, dans des cours de ces 5 licences que l'on vient de mentionner.
Alors on assiste aux cours, on pose aussi des questions. Vous mettez doute Olivier Cuissard à la disposition des élèves. Et les parents, non, ne sont pas forcément invités.
S'ils veulent venir visiter,
les
accueille bien volontiers.
Venir.
Mais c'est plutôt pour le jeune de venir échanger avec un de ses camarades qu'il connaissait peut-être de son lycée
avant.
Donc,
c'est sûr que parfois, quand on est en terminale l'année d'avant, quand on était en première, on connaissait les aînés de terminale qui maintenant sont partis ailleurs et qui volent de leur propre aile.
Potentiellement ici. Et donc alors, toute la journée, ils échangent avec leurs camarades, ils mangent le midi avec eux, ils jouent au baby-foot avec eux. Voilà, il y a une cohésion qui se crée. En tout cas, les meilleurs ambassadeurs et les plus fidèles, je pense, ce sont les étudiants eux-mêmes.
Alors justement, Olivier Cuissard, on refait le point. Combien d'étudiants aujourd'hui à l'ICP Campus de Reims?
On a dépassé les 500 étudiants en cette 3e rentrée seulement.
Là aussi, on le sent d'ailleurs quand on rentre aujourd'hui dans l'ICP par rapport à l'an dernier.
Oui.
On voit bien qu'il y a plus d'effervescence, qu'il y a plus de monde et qu'il y a beaucoup plus d'agitation, de bonne agitation d'ailleurs.
Hein. Oui, je l'espère. Hein. J'espère qu'ils sont calmes. En réalité, on était 120 la première année, 300 la deuxième et un peu plus de 500 la 3e année.
Et en 2024, ce chiffre va encore progresser.
Le chiffre va progresser, mais néanmoins, on aura nos premiers étudiants qui vont nous quitter, puisqu'ils auront terminé leur licence et ils vogueront à leurs occupations futures, peut-être le master ou peut-être un master dans une autre école, puisque tout est ouvert. Mais effectivement, on va étoffer encore une fois l'offre. On va proposer des masters supplémentaires, notamment dans le domaine du management. On va proposer deux masters, un master en management des entreprises, transmission, des PMI, PME, quoi, grosso modo, puisque c'est le tissu local que nous avons ici. Et puis un autre master dans le domaine de la vigne et de l'agriculture, gestion des exploitations agricoles et viticoles, transmission des exploitations agricoles et viticoles. Donc voilà, en cette rentrée de septembre 24.
C'est vrai, quand vous dites transmission, ça veut dire aussi que ça suppose, pas pour tout le monde peut-être, mais en tout cas pour une partie, comment, quand on est un viticulteur, quand oui. on est chef d'entreprise, on s'interroge sur le propre futur. Et parfois, cette transmission est délicate.
Oui, c'est délicat. Et puis, moi, j'ai souhaité installer une formation de ce type à l'ICP parce que ça n'existe pas sur le territoire. Encore une fois, j'essaye de compléter l'offre locale. Donc, le jeune qui voulait étudier ces disciplines-là devait aller ou à Dijon ou à Beauvais. Ou je pense que un territoire agricole comme le nôtre se devait d'avoir une formation de ce type-là.
Alors, il faut rappeler à nos amis auditeurs de RCF qu'il y a aussi, bien entendu, des conférences qui se poursuivent, que ce soit dans le cadre de l'ICP ou le cadre oui. D'accueil de personnes même extérieures.
Grand ouvert sur le monde, hein, c'est vraiment le slogan qui est le nôtre. Un cycle de conférences en théologie qui me permet de mobiliser la faculté de théologie, le Théologicum de chez nous, de l'ICP Paris. Et puis un cycle de conférences plus large sur l'histoire, la culture, le patrimoine local.
Plus local, avec local. Des historiens que l'on connaît, et une grande variété d'ailleurs. Et
même des historiens qui interviennent sur RCF.
Qui interviennent sur RCF. Alors il faut rappeler également, Olivier Cuissard, que les émissions également se poursuivent. C'est l'occasion de faire un petit tour d'horizon avec vous oui. en ce début d'année. Bulle étudiante, bien sûr, avec les étudiants et avec vous. Une oui. émission régulière que vous proposez où vous avez des invités très variés.
En réalité, l'idée pour moi, c'est de montrer qu'on a de la ressource vive qui intervient sur le campus. Donc d'interviewer un chef d'entreprise, interviewer un professeur, un maître de conférence, un chercheur. Donc voilà, on essaye de montrer qu'il se passe de belles choses sur ce campus de Reims.
Et puis parfois, inviter des personnalités même connues nationalement, voire oui. internationalement. Je sais que votre ami Olivier Védrine intervient oui. régulièrement. C'est un très bon connaisseur, en particulier de la Russie. En ce moment, avec les conflits avec l'Ukraine, c'est quand même très, très important,
oui,
très
oui,
intéressant.
Il était d'ailleurs à Kiev récemment, puisqu'il a en charge la reconstruction. Maintenant que la guerre a fait ses ravages, il faut commencer à penser à reconstruire un certain nombre de bâtiments, de services publics. Et donc, voilà, il était à Kiev pour travailler ce sujet.
On rappelle donc, pour terminer aujourd'hui, Olivier Cuissard, on rappelle le grand rendez-vous lundi 23 octobre.
C'est ça. C'est noté dans tous les agendas, je l'espère. En tout cas, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Dans l'opération Tester la fac, que les jeunes ou les moins jeunes, mais surtout les jeunes qui sont en terminale, viennent sur place, se rendent compte comment fonctionne l'ICP, participent à des cours et peut-être que ça leur donnera d'excellentes idées.
Tout à fait. Merci Jean-Pierre.
Merci effectivement à Jean-Pierre Benoît que l'on retrouvera demain soir dans le magazine régional à partir de 18h10. Si on va commencer par un petit teasing des invités de demain, nous aurons notamment la joie de recevoir Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais également président de la Conférence des évêques de France. Cette journée Tester la fac que Jean-Pierre Benoît présentait il y a quelques instants. Le rendez-vous, c'est le lundi 23 octobre. Encore une fois, si vous êtes parent, grand-parent d'un jeune, n'hésitez pas à lui dire de venir tester la Cateau de Paris, campus de Reims. C'est l'occasion de voir si la filière lui correspond, de voir si l'on s'intègre facilement au campus, comment on crée du lien avec d'autres étudiants, des élèves qui sont déjà là, qui sont, j'allais dire, dans le cœur de la vie étudiante ici à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Ce sera une très très belle journée, l'occasion aussi de découvrir ses professeurs et une manière pédagogique assez intéressante d'enseigner, une manière pédagogique et ludique. J'étais également en partie pour vous présenter les rendez-vous de demain. chemin, il y en aura quelques-uns. Il y aura Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bien évidemment, mais on parlera aussi du VITEF avec la bioraffinerie de Pocancy-le-Raffidin. On parlera d'un orgue du côté de Suippes qui va fêter son 20e anniversaire. On sera avec Jacques Cohen, notre chroniqueur d'actualité, avec Patrick Cognard, un maire qui nous parle. Voilà, vous avez déjà tout le programme. On espère que ça vous a mis en appétit pour venir prendre l'apéritif avec nous demain de 18h10 à 19h. Demain, il y a aussi d'autres rendez-vous à prendre, notamment, on le rappelle, hein, cette journée à l'appel de l'intersyndicale pour se mobiliser contre l'austérité, pour l'augmentation des salaires, des pensions et l'égalité femmes-hommes. Ce vendredi 13 octobre devrait être une journée marquée par les grèves. Notre région n'y fera pas exception dans les départements de la Marne, de la Haute-Marne, de l'Aube et des Ardennes. À savoir également dans l'actualité nationale et internationale, mais certainement que le réseau de RCF y reviendra d'ici quelques secondes à 19h. Gérald Darmanin ordonne l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes en France. Le président de la République française, Emmanuel Macron, prendra la parole sur ce conflit international ce soir à 20h. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, 18h10, pour un nouveau magazine en région Champagne-Ardenne.